clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
RMC Football Show.
Verratti pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
C'est parti pour l'after, ravi d'être avec vous pendant 7 heures de bonheur, le dernier after de l'année, figurez-vous. Avec nous ce soir, Frédéric Piquion. Salut Frédéric.
Bravo.
Bonsoir. Comment il va Fred?
Ça va très bien.
Il était comment cet après-midi sur RMC Sport, la première ligue?
Il était cool. Plutôt cool.
T'as pas l'air emballé.
Non,
ça
s'est mal passé
avec Salim
Bangali,
c'est ça?
Non, non. Ça s'est super bien passé. Ça se passe super bien avec Salim. C'est un duo d'enfer.
Ouais.
Ça me rappelle le duo Ilan Piquion à Saint-Té.
Ah ouais, effectivement, d'enfer.
Non, mais c'est un chic type. C'est vraiment un chic type. Je le connaissais pas. Avant le.
Franchement, moi je le connais, je t'assure.
C'est vraiment un amour. C'est un amour.
C'est vrai.
C'est un amour.
Bonsoir, Jonathan Macardy.
Salut les gars.
Ça va?
Écoute, ça va.
Ouais.
Petit multiplex, peinard.
Tu sais que Salim, c'est un peu l'anti-Macardy.
Pourquoi?
Je pense que Fred te le dira. Ça n'a rien à voir les deux, on est d'accord, en termes de personnalité, de rien à voir.
Absolument rien.
Voilà. Pour te dire à quel point Salim est un bon mec. 19e journée de Ligue 1, il reste un match à jouer. Ce sera demain entre Bordeaux et Amiens.
C'est vraiment une petite...
Oui,
tu sais ce que je veux dire.
De partout entre Reims et Caen, victoire 4-0 de Rennes face à Nîmes, c'est le carton de la soirée. Jérôme Thomas ne s'en remet pas. Lui qui est parti à Rennes, il devrait y partir plus souvent, visiblement.
Il est bien.
Le PSG a battu Nantes 1-0. Strasbourg a battu Nice 2-0, victoire de Guingamp 2-0 à Monaco, c'était le match de la peur entre les deux derniers. Lille a perdu à domicile 2-1 face à Toulouse, Lille qui menait 1-0, 1 partout entre Montpellier et Lyon, 3-0 pour Saint-Etienne à Dijon, et puis 1 partout entre Angers. Marseille au classement, on a le PSG avec 2 matchs en moins que Lille qui a 47 points, Lille qui est deuxième donc avec qui est à jour, 19 matchs joués en 19 journées, 34 points, ils ont 2 points d'avance sur Lyon mais qui compte 1 match en moins que Lille, tu me suis jusque là. Quatrième, on a Montpellier avec 17 matchs joués seulement, 30 points, c'est 2 de moins que Lyon, mais c'est un match en moins que Lyon. Ah, le bordel avec un match en moins que Lille, pardon. Tu vois, il y en a un qui suit. Cinquième, on a Saint-Etienne. On a Marseille à la sixième place avec 17 matchs joués, avec 27 points. Donc, ils ont 3 points de retard sur Saint-Etienne, mais un match en moins que les Verts. Ok.
Ouais.
Ok, t'es là.
Et 2 matchs de.
Et je vous donne juste la toute fin du tableau quand même. Vous avez Guingamp dernier avec 11 points, mais les Guingampais reviennent à 2 points de Monaco, qui est avant-dernier, avec la victoire ce soir 2-0 face à Monaco. Et puis, vous avez 18e à la 12e place Dijon avec 16 points, donc ils ont 3 points d'avance sur Monaco. Amiens qui compte 16 points également. Caen qui est 16e avec 18 points, mais qui là aussi a son calendrier à jour avec 19
c'est
matchs.
C'est Bordeaux qui a 16 matchs seulement. Qui ont 21
exactement.
Points, qui a 16 matchs.
Ouais.
Donc ça fausse vraiment le classement, ces histoires.
Bah, il y en a pas mal qui se plaignaient de ça d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que c'est finalement.
Écoute,
je vous donne quelques autres résultats également. En Ligue 2, 19e journée, Ajaccio s'est imposé 2-1 à Lens. Victoire 1-0 de Sochaux face à Lorient. Première Ligue, on l'évoquait il y a quelques instants, Fred. Arsenal a battu Burnley 3-1. City a perdu à domicile 3-2 face à Palace avec un but de Taré de Townsend notamment. Ouais. Chelsea a perdu à domicile également 1-0 face au Leicester de Puel. Puel qui était en danger en plus avant ce match. La première de Solskjaer en tant que manager de United, il a gagné 5-1 à Cardiff là où il a été entraîneur. En Espagne, l'Atlético a battu l'Espagnol 1-0 grâce à un but Griezmann. Le Barça a battu le Celta 2-0, Dembélé a marqué. En Allemagne, Leipzig a battu le Werder 3-2. Le Bayern a battu l'Eintracht 3-0 avec un doublé de Ribéry. En Italie, le Napoli a battu la Spal 1-0. Un partout entre le Chievo et l'Inter. Et ce soir, la Juve a battu la Roma 1-0. Championnat du monde des clubs, remporté par le Real Madrid également, et victoire 4-1 face aux Emirati d'Alain. Et puis River a remporté la petite finale 4-0 face au Kashiman.
Ouais, je sais pas si c'est une grande fierté, hein.
Ouais, c'est pas mal,
peut-être de sortir contre Alain quand même. Alors que t'as l'excuse que, bah, à cause de la finale de la Libertadores, ils ont pas beaucoup joué ces derniers temps, mais quand même. Quand même, ça craint un peu.
On va débuter donc cet after avec les affiches de Ligue 1 de ce soir. Tiens, commençons par Marseille, les gars. Alors Marseille qui a eu un match très compliqué ce soir à Angers. On rappelle un partout dans ce match. Le premier buteur de la rencontre, c'est Bauken à la 35e. Égalisation de Sarr à 10 minutes de la fin. Le fait est que Marseille enchaîne un 6e match d'affilée sans victoire. Pour le dernier match de la saison en plus. Marseille qui a eu beaucoup de mal. Pierre-Yves Leroux le disait, hein, pendant le match, ils auraient pu en prendre deux ou trois faciles en première période. Hein.
Ça a été catastrophique la première mi-temps, c'est scandaleux. Alors j'entendais Pierre-Yves qui, je pense, gentiment disait que oui, Garcia a fait des changements qui ont permis de, ouais, non. Il s'est trompé dans
sa compo. Pour parler un mauvais français, vous voulez dire que c'était moins pire, quoi.
Voilà. Ouais. Il s'est trompé dans sa compo d'équipe, comme d'habitude. Il s'est trompé dans sa mise en place, comme d'habitude. Son équipe, comme d'habitude, a proposé quelque chose de médiocre. Et maintenant, je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Je pense que, qu'on a vu, sur le premier but, les attitudes. Alors, on sait qu'Adil Rami, c'est pas le genre de mec à lâcher ses entraîneurs. Mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que les joueurs ne sont plus motivés. Les ingrédients, somme toute, assez simplistes de l'année dernière, qui étaient on met le pressing, on met la pression. On les a fait cette année. Donc ça fonctionne pas. Sur le premier but d'Angevin, bah, t'as Rami et Mandanda, t'as l'impression qu'ils sont, je sais pas, on leur a mis du chloroforme sur la bouche. C'est quoi le problème? Mais là, maintenant, je pense qu'il faut s'arrêter. Il y a la trêve, Jacques-Henri Hérault a fait n'importe quoi en le re-signant. Je pense que ça va lui coûter de l'argent, mais il faut qu'il réagisse et il n'y a pas d'autre solution que de se séparer de cet entraîneur qui est médiocre avec ces équipes-là.
Bah, est-ce que c'est mieux de justement de perdre de l'argent, on va dire, en virant un entraîneur, ou sinon là, tu perds la Ligue des Champions, tu perds peut-être la Ligue Europa.
Et tu sais que la Ligue des Champions cette année pour le projet, c'est indispensable.
C'est indispensable. Et pour toi,
Fred Garcia doit partir aussi. T'as l'impression qu'il est lâché par ses joueurs là. Moi, ça passe plus. Enfin, je sais pas.
Ouais, mais en tant que joueur, je pense pas qu'on lâche comme ça un entraîneur, parce que bon, quand on est sur le terrain, on essaye de faire les efforts, et après quand on est
qui joue aussi quand même.
Mais bien sûr, on a un amour propre, on n'est pas comme ça à se dire bon vas-y, je vais embêter l'entraîneur et on va faire en sorte de perdre. Ou c'est pour ça que ça me pose des problèmes quand on dit que ouais, c'est de la faute de Garcia, il a pas fait le bon 11 de départ, voilà. Quand on est coach, il y a des choix à faire, et je pense qu'il a, pour lui en tout cas, c'était son meilleur choix ce soir.
T'es sûr?
Malheureusement. Bah ouais, pour son opinion à lui. Simplement, voilà, ça n'a pas marché et ça marche pas depuis plusieurs semaines.
C'est quoi la solution alors dans ce cas-là, Fred? Ce que tu dis, moi, ça me gêne quand on dit c'est de la faute de l'entraîneur. C'est souvent le fusible qui pète dans ces moments-là.
Bah, de toute façon, on va pas virer 11 ou 23 joueurs. De toute manière, ouais, c'est lui qui va prendre.
Il va prendre d'autant plus que c'est lui qui a fait le mercato cet été aussi.
Voilà. Donc, le mercato n'a pas été,
T'as 60 patates sur le banc, là, c'est encore, hein.
Ouais. On va accueillir Abdo, tiens, supporter de l'OM qui nous a appelé, 32-16. Salut, Abdo.
Salut, la sœur. Salut, Nico. Salut à tous.
Comment tu vas, Abdo?
Bah, écoute, heureusement qu'on a accroché une match nulle. Parce que la soirée, je la sentais mal. Et j'ai entendu Jonathan parler de Rudy Garcia. Non, ça vient pas de Rudy. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui a. Ils ont eu du mal à repartir parce qu'ils ont raté la Ligue des Champions à un point l'année dernière, avec tous les efforts qu'ils ont faits. Il y a un truc, ils sont pas repartis malgré les victoires en début de saison. Il y a eu un 4-0, il y a eu un 3-0.
Mais t'as vu le contenu?
Comment?
T'as vu le contenu? Des victoires.
Non, oui, il n'y avait pas de contenu.
C'est pas fameux.
Il y a eu quelque chose qui a cassé, quoi. Ils ont eu du mal à repartir. Et après, on a parlé des recrues. Mais les recrues n'ont pas fait tous les matchs. Et c'est des jeunes recrues. Je ne parle pas de Strassmann.
Tu parles de Tsaletatsar et de Radonjić.
Ouais.
Écoute, je vais te dire, je pense que Tsaletatsar, j'ai du mal à croire que c'est un si mauvais défenseur, parce que on l'a vu l'an dernier en Europa League. Hein, Marseille a joué deux fois contre lui.
Ouais. Bah, oui.
Je pense que justement, c'est la faute de Rudy Garcia si ça marche pas avec Tsaletatsar, parce qu'on se rappelle les manières dont il a incorporé dans l'équipe ce match contre Nîmes que tu perds, qui est où il est en surpoids. Faut surtout pas le mettre. Je sais pas si on avait fait ensemble.
Ouais, c'était le match contre Nîmes.
Fallait pas le mettre. Il le grille. Après, il le sort de l'équipe, le mec, en gros, enfin, il a pas su le gérer. Donc, tu peux pas dire que Garcia n'a rien à voir là-dedans.
Vas-y, Abdo. À ce moment-là, pour Nîmes, Rami n'était pas dans le coup, Rolando n'était pas là, on avait Amavi à gauche.
Mais avec Amara sur le banc.
Non, mais d'accord, mais.
Ah, mais c'est toute l'équipe qui était pas dans le coup. Qui était pas dans le coup, vraiment.
C'est toute l'équipe. Et on l'a bien vu en première mi-temps. Et depuis quelques matchs, il manque de confiance. Les gars, ils les passent, ils se font peur. Et personne veut la balle. Yet, il donne plus un ballon. Yet ne donne plus un ballon. Et à ma vie, il fait peur.
Non mais Abdo, je t'entends, mais dans ce que tu nous décris, on est d'accord qu'il y a aucun fond de jeu. Que quand tu vois les matchs de l'OM depuis le début de la saison, même quand ça gagne 4-0, c'est pauvre, il y a aucune idée, il y a aucun style, et ça, c'est imputable à l'entraîneur.
Ouais, mais je crois pas. Non, je pense que ça vient plus des joueurs. Yet, quand Ocampos s'y rentre, il est frais, il joue perso, et à un moment donné, il a une occasion, il la met en l'air.
Mais sur sa reprise là,
ouais, tu peux pas cadrer.
Elle est pas facile, hein.
C'est un pro, le mec. Et il fait ça à l'entraînement, le mec. Il est en face, il est à 17 mètres. Il a mis 4 mètres au-dessus. Et voilà, il y a plein de choses comme ça.
Tiens, Abdou, il y a une réaction sur l'application Direct Studio de Jus qui nous dit Garcia n'est pas le seul problème, le virer ne résoudra rien. Il y a pas mal de supporters de l'OM qui ont aussi cette façon de voir les choses. Alors, il y en a effectivement qui veulent le départ de Rudy Garcia et qui n'ont pas attendu les derniers résultats. Toi, t'en fais partie d'ailleurs, Jonathan. Mais c'est vrai que certains disent, OK, on va le virer. Au final, tu vas chercher qui? Et puis, est-ce que finalement, ça résoudra tous les problèmes?
Chercher qui, c'est simple.
Je pose la question, j'en sais rien, moi.
Il y a deux noms, hein. Il y a Gajardo. Qui a, il a gagné la petite finale, donc il est disponible. Jardim, non, mais surtout.
Mais Jardim, vous faites marrer avec Jardim. Mais il faut qu'il veuille venir, hein, pour venir. Il faut lui payer son salaire, faut lui, tu vois.
Par rapport à la réaction sur Direct Studio, ils ont raison, c'est pas juste Rudy Garcia. Il y a les joueurs, mais il y a surtout Jacques-Henri Hérault qui est un vrai pitre à la tête de l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un des pires présidents qu'on a vu en activité parce que il parle beaucoup, il présente bien, il nous fait des PowerPoints dans les conférences de presse et compagnie. Mais pour l'instant, je suis désolé. Le rôle d'un président, c'est de choisir le banc entraîneur, et moi je pense qu'il a pas fait dès le départ, c'est de gérer l'équipe dans le mercato, dans le recrutement, et pour l'instant il y a aucune stratégie de recrutement qui est cohérente, et le seul point positif qu'il a depuis qu'il est arrivé à la tête de l'OM, c'est le travail qu'a fait Denis Zubizarreta pour restructurer, tu sais, les liens de l'Olympique de Marseille avec les clubs en région, c'est tout.
Justement, moi je voulais repartir justement sur Zubizarreta, c'est quoi son rôle? Parce que on dit que le sportif c'est Garcia. Mais Zubizarreta,
il a fait un très gros travail.
Bah, il fait un travail de restructuration par rapport au club.
Par rapport au centre de formation, sur les liens.
Aujourd'hui, c'est la première. C'est l'équipe première.
Si
l'équipe première, elle est bonne et qu'elle va, justement, elle engrange des points, elle va en Ligue des Champions, etc., c'est ce qui va permettre, justement, à l'équipe, à la réserve, à tout le centre de formation et à tout le club de monter.
Abdo, vas-y.
Et c'est pareil, on joue sans avoir un centre. Et on a joué à pratiquement à 10, voire 9,5 parce que Lopez était absent aussi.
C'est compliqué, hein.
On joue.
Ça, c'est clair.
On peut pas demander. Alors, je vous entends, à longueur de journée. Tovin, il a pas de niveau, mais il peut pas tout faire, Tovin.
Qui a dit que Tovin avait pas le niveau, Abdo? Qui a dit que Tovin avait pas le niveau?
Mais j'entends souvent sur.
Il surnage. Et franchement, c'est remarquable ce qu'il fait dans le contexte actuel.
Bah, bien sûr. On peut pas tout lui demander. Je vous dis, Payet, il met plus un ballon. Au Campos, il est maladroit. Alors, d'accord, il se défonce. Non, j'aime bien, mais c'est trop léger. On a trop de légèreté, en fait.
Ce que t'es en train de dire, c'est que ça manque de talent. Au niveau de l'effectif de l'Olympique de Marseille, en vérité.
Moi je veux bien, et on était avec Pablo à la mi-temps du match tout à l'heure, un supporter de l'OM qui nous disait l'année dernière ils étaient en sur-régime. Moi je veux bien que l'année dernière ça a été exceptionnel, mais tu bascules pas du tout au rien. Enfin, alors t'es quand même pas dans le rien, t'es pas non plus 18e au classement.
En sur-régime, il faut pas abuser, en sur-régime on n'a pas joué des gros matchs à un point d'être en sur-régime.
C'est pour ça que je pense que t'es pas, enfin, je sais pas, que Garcia soit peut-être pas le responsable de tout, c'est une chose, mais on peut pas dire qu'il soit pas responsable non plus, tu vois.
Ah non, mais tous les cadres, du président Hérault jusqu'à Garcia, ils ont une responsabilité. Mais les joueurs sur le terrain, si tu les bouges pas, à ma vie, avec toutes les boulettes qu'il fait, Rami, le début de saison catastrophique, Mandanda qui reste 4-5 matchs, qu'est-ce qu'il fasse, Garcia?
Peut-être essayer de changer sa composition d'équipe, peut-être essayer de mettre d'autres joueurs sur le terrain. Le problème, c'est que tu rigoles quand tu dis qu'il fait tourner. C'est même pas qu'il fait tourner, c'est que à chaque match il y a une composition d'équipe différente. Donc oui, il fait tourner. Mais le problème, c'est que t'as l'impression qu'il est perdu, qu'il essaie mille et une choses et qu'il y a rien qui marche. Alors je suis désolé. Cette équipe-là, l'année dernière, peut-être que le parcours en Europa League a été surévalué parce qu'effectivement, j'étais le premier à le reconnaître, le tirage au sort était plus que favorable. Mais je suis désolé, dans cette équipe-là, t'as de la qualité et t'as de la qualité suffisante pour ne pas avoir à te satisfaire d'un match nul à Angers.
Non, mais t'as de la qualité, mais t'as beaucoup d'insuffisants.
Aussi.
Et c'est ça,
aussi.
Le problème, il est là. C'est que t'as beaucoup trop d'insuffisance. T'as, par exemple, t'as Gustavo qui est pas à 100%. Gustavo, il n'est pas à 100%. Oui. Saka, il fait un match sur trois parce qu'il est blessé, pas blessé. Il est baladé de droite à gauche. Sarr, il joue pas. Le problème, c'est collectif. Et tant qu'ils seront pas tous au même niveau, parce que je pense qu'il y a un problème de niveau dans cette équipe,
il y a un problème de niveau, il y a un problème de mental, il y a un problème de spirale négative.
Et c'est ce qui faisait la différence l'année dernière aussi.
Exactement.
Les gars, il y a un problème tactique.
Heureusement qu'on finit sur un nul. Parce que le mois de janvier va être terrible. Hein.
Mais il y a un vrai problème tactique.
Abdo,
aussi,
merci d'avoir été avec nous. Bonne fête,
Abdo.
Bonne soirée. Bonne fête à toi.
Mec.
Plein de bonheur. Merci, salut, ciao, Abdo. Ciao. Non, on va accueillir Gabriel, autre supporter de l'OM. Il nous a appelé au 32-16. Salut, Gabriel.
Bonsoir à tous, bonsoir.
Alors, Gabriel, on avait Abdo avec nous il y a quelques instants, qui était plutôt indulgent vis-à-vis de Rudy Garcia. Comment tu te positionnes, toi, là-dessus?
Moi, c'est compliqué, très compliqué. J'ai tout à été un défenseur de Rudy Garcia depuis son arrivée. Voilà, pour moi, ce soir, c'est le match de trop. Il a pas, voilà, il a, c'était un match clé, il fallait le gagner. Et voilà, il a pas fait. Je me suis ennuyé devant le match. C'était, voilà, un gros coup de gueule envers Rudy Garcia. S'il nous respecte, il faudrait qu'il s'en aille.
Eh oui.
Voilà, qu'il démissionne.
Il ne le fera pas.
Bah oui, ça c'est
ouais,
clair.
Oui, parce que, voilà, mais bon. Il cherche le licenciement, mais bon. S'il veut un minimum nous respecter, qu'il démissionne, ça va plus, là.
Mais Gabriel, qu'est-ce qui a fait qu'avant tu le défendais, maintenant tu le défends plus?
Ah, parce que, bon, en si peu de temps, il a quand même instauré une stabilité dans l'équipe. Il nous a fait, bon, une saison dernière magnifique avec la finale de l'Europa League, on n'oublie pas. Moi, je n'oublierai pas tout ce qu'il a fait, les émotions au stade et tout. Mais là, on voit qu'il a une gestion de l'équipe, c'est incompréhensible. Encore une fois, aujourd'hui, dans le groupe, pourquoi ne pas convoquer Bouba Camara, le jeune Marseillais?
Exactement.
Je sais pas.
Il est en train de flinguer, là, Bouba Camara.
Exactement.
Alors que Caleta ça peut être un joueur qui peut être vraiment très bon et que sur lequel tu peux faire une très belle plus-value à la revente.
Ouais, exactement. Tu sais, comme
par rapport au coach. Par rapport au coach, excuse-moi de te couper, mais par rapport au coach, je pense que justement, il a envie de montrer et de faire confiance à ses cadres qui normalement devraient monter l'équipe et être en forme et être ses leaders. Et c'est eux en fait qui n'arrivent pas à se mettre en transe pour l'équipe. Alors, est-ce que tu vas faire rentrer des jeunes? Est-ce que tu vas faire rentrer des jeunes dans une équipe qui marche pas?
C'est pas faire rentrer des jeunes, Bouba Camara.
Mais non, mais c'est un jeune. Il a quel âge?
Mais il a 19 ans, mais Bouba Camara, les matchs qu'il a fait en défense centrale, ça a toujours été le meilleur défenseur central de l'OM.
Qu'est-ce que tu veux dire,
toi? C'est quand il joue latéral. C'est parce qu'il le met latéral droit, latéral gauche.
Moi, je pense qu'il le met
laisse-le central, quoi.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il le met pas parce qu'il veut pas lui mettre de pression. Alors, moi, je préfère le mettre. Moi, je préfère mettre un joueur et faire rentrer petit à petit dans une équipe qui fonctionne.
Mais tu peux pas dire ça.
Ah, bah si.
Bouba Camara, il a montré que c'était le meilleur défenseur central de l'OM depuis le début de la saison. Les matchs nus où il a été mauvais, c'est parce qu'il le met latéral gauche ou latéral droit.
Ce que tu dis, il a déjà joué dans l'axe.
Et dans l'axe, il a été très bon. Ça a été le meilleur, c'est le meilleur central de l'OM.
Il a joué en
Ligue. Alors, dis-moi un match de l'OM. Dis-moi un match. Et
il jouait
à quel poste? Dis-moi un match de l'OM où Bouba Camara, quand il jouait en central, il était mauvais.
Contre Limassol, il a joué?
C'est le seul match.
Donc,
mais tout le monde est passé au travers. Cite-moi un match en Ligue 1 où Bouba Camara a joué défense centrale où il a été nul. Les matchs où il est passé à travers, c'est quand il a joué latéral droit ou latéral gauche.
Non, mais ce que Fred est en train de te dire, c'est qu'en gros, enfin, c'est pas qu'il te dit pas, il doit pas jouer. Il essaie de comprendre pourquoi Garcia ne le fait pas jouer.
Mais le fait pas jouer parce qu'il a, parce qu'il est perdu. Il devrait se bien rendre compte que Bouba Camara,
c'est Garcia, le seul. Tu penses pas que Rudy Garcia se dit aussi, il voit bien qu'il est bon, non, quand même, le gamin?
Bah oui. Bah,
alors, il voit bien qu'il est bon. Alors, dans ce cas-là, pourquoi? Alors,
bah, je me pose la même question.
C'est pas une question. Pourquoi? Alors, on va revenir loin, mais juste parce que c'est significatif. Pourquoi le mec, Bouba Camara, il fait un super match contre Toulouse? Et pourquoi il le sort de l'équipe le match d'après contre Nîmes et t'en prends 3?
Mais comment tu l'expliques ça, toi?
Mais parce qu'il est perdu, il a aucune gestion de l'équipe, il fait jouer ses intérêts, c'est tout. Il a pas une gestion logique et cohérente basée sur la mérite de son effectif. Et c'est pour ça que les joueurs sont en train de péter un boulon. Si ça se passe mal dans le vestiaire, c'est parce que Garcia n'a aucun sens de la méritocratie et qu'il ne tient plus du tout son vestiaire. Il est perdu, c'est tout. Faut s'arrêter maintenant. Au bout d'un moment, c'est bien mignon. Je suis d'accord avec l'auditeur, c'est bien, il a amené en finale de l'Europa League, mais bon. Il a réussi à rien instaurer dans cette équipe. Depuis le début où il est arrivé, qu'il a remplacé Franck Passy, on n'a jamais senti son empreinte sur l'équipe. Je suis désolé, hein, mais quand on fait si on veut faire des parallèles, même Franck Passy, c'était mieux que lui, hein.
Ouais, je sais pas. Non, moi, je...
C'est comme le jeune Caleta Char. Une recrue. Un bon espoir croate.
Ah bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu mets, défense centrale, on met Caleta Char et Camara. La meilleure,
à l'heure actuelle
de Marseille, c'est ça.
À l'heure actuelle, pourquoi pas?
La meilleure défense centrale de l'OM, c'est de mettre Camara avec soit Rolando, soit Rami.
De toute façon, globalement, depuis le début de saison, il tâtonne en défense. Hein. C'est-à-dire pas qu'en défense centrale.
C'est catastrophique.
Il a souvent changé de défense.
Les gars, je vous rappelle juste qu'il y a 60 millions sur le banc, quand même. Donc c'est.
Non, mais alors ça, tu sais, Jonathan, ça là-dessus, moi, quand je vois le fonctionnement de pas mal de clubs comme ça, il y a beaucoup de clubs qui achètent des joueurs, souvent des jeunes d'ailleurs, qui les payent relativement cher et qui en gros les font mijoter, comme disait Fred. C'est-à-dire, ils les font jouer petit à petit. Je me souviens, moi, de Rames à Porto la première année, il demande à partir au mercato d'hiver parce que Villas-Boas le fait pas jouer. Mais non, mais tous les gros clubs font ça.
Sauf que Marseille, c'est pas un gros club.
Il y en a certains qui s'imposent direct, d'autres pas.
Nico, tu sais que l'affection que j'ai pour l'OM. Mais sauf que.
Bah là, ça tombe pas.
Non, sauf que Marseille, c'est pas un gros club. C'est pas un gros club.
Non, mais tu mets tout est relatif.
Non, mais quand tu mets 60 millions, t'as besoin d'avoir une rentabilité sur le court terme.
Normalement, c'est
en ce moment, c'est pas une grande équipe.
En ce
moment, c'est pas une grande équipe, mais c'est un gros club.
Ces joueurs, ils devraient jouer.
Exactement.
Normalement.
Exactement.
Ils devraient.
Ce que je veux dire, c'est si t'as mis 60 millions cet été, relativement à tes finances qui ne sont pas non plus les finances du Paris Saint-Germain, tu dois quand même avoir une petite rentabilité.
Bah là, disons que là, la 19e journée, tu devrais déjà avoir des récolté certains fruits. Là,
t'as...
Et qui a fait le mercato? Je veux pas enfoncer le clou, mais qui a fait le mercato? C'est Rudy Garcia. Et pour te répondre à ta question tout à l'heure, quand tu disais qu'est-ce que fait Andoni Zubizarreta, bah le problème c'est que le fonctionnement de l'OM, c'est qu'Andoni Zubizarreta propose des joueurs, mais qu'au final Héro tranche toujours dans le sens de Rudy Garcia.
Gabriel, merci d'avoir été avec nous. Passe de bonnes fêtes, Gabriel.
Merci.
Voilà, plein de bonheur. À très bientôt, Gabriel. Dans quelques instants, supporters de l'OL, supporters de Montpellier, on vous attend 32-16. On va revenir sur le match nul un partout entre Montpellier et Lyon ce soir, avec polémique également. Péno ou pas Péno sur Fekir. Bah ça, on va pas y revenir, mais on vous attend quand même pour parler de ce match. Allez, à tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
En compagnie de Fred Piquion et de Jonathan McCarty, on vous attend bien entendu au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio pour revenir. Comment?
Ça m'excite quand tu fais ça, ce geste là.
Comment je fais, vas-y? Sur RMC Sport News, les gens, voilà, vous avez. Vas-y, fais le bruit. Non, on l'entend pas. Fais-le dans le micro, soit.
Mais pas, c'est mignon, tu le fais à chaque fois. Bah c'est oui. Pour ça, c'est
assez. Résultat de la 19e journée de Ligue 1. Il en restera une, demain d'affiche. Ce sera entre Bordeaux et Amiens. Il y a eu 2-2 entre Reims et Caen. Il y a eu 4-0 pour Rennes face à Nîmes. Il y a eu 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à Nantes. Strasbourg a battu Nice 2-0. 2-0 aussi pour Guingamp à Monaco. Victoire de Toulouse à Lille 2-1. On vient d'en parler il y a quelques instants. Le match nul de Marseille à Angers. Un partout. Marseille qui a égalisé en fin de match, hein, qui a été mené pendant un long moment. Un partout entre, Montpellier-Lyon, on en parle dans quelques secondes, et Saint-Etienne a battu Dijon 3-0. Tiens, parlons-en justement de ce Montpellier-Lyon, les gars. Alors, match important parce que match du haut de tableau. Ouais. Lyon qui est 3e avec 32 points, Montpellier qui est 4e avec 30 points. Alors, Montpellier qui a un match en moins par rapport à l'OL. L'OL qui est à 2 points de Montpellier, mais qui compte un match en moins par rapport... Lyon qui a un match en...
Calme-toi.
Lyon qui a un match en moins que Lille, mais qui a 2 points en moins que Lille. Ouais, c'est bon là.
Lyon a un match en moins que Lille, mais 2 points de retard. Montpellier a 2 matchs de retard par rapport à l'OL.
Oui, mais du coup, ils ont un match de retard seulement sur Lyon.
Voilà. Exactement.
Et c'est quoi, s'il te plaît, la Ligue? Enfin, remarque, c'est même pas la Ligue, président.
C'est
de
les
club.
Gilets jaunes, s'il vous plaît.
Non, président de club, arrêtez. Non, parce que du coup, on est paumé complètement dans le calendrier.
C'est quand le dernier match? C'est le 19 février, c'est ça?
De
le match du PSG.
Bah arrête, PSG. Putain, là, tu m'embrouilles, là, mais... je comprends rien.
Bah, c'est le dernier match, en tout cas.
C'est ça.
Donc, ça va être.
Alors un partout, donc Fekir a marqué le premier, 61e. Il y avait eu un premier but d'ailleurs de Delors en première période annulé pour une position de hors-jeu d'ailleurs, très bien annulé. Voilà. Et en toute fin de match, une patate d'Aguilar.
Patate de
dans
fin.
Les cas. Non mais,
ah ouais, mais magnifique.
Un partout au final. Comment tu l'as trouvé ton ex, Fred? Enfin l'une de tes ex, parce que t'en as.
L'une de mes ex.
Ouais.
Oh, un petit peu poussif hein, sur ce match, pas trop de qualité. Ils vont quand même à l'extérieur, ils ont essayé de jouer. Le fait du match, c'est bien sûr la frappe de Fekir, le but, il met quand même un superbe but. Malgré tout, ils auraient dû quand même garder le résultat pour espérer être beaucoup mieux sur cette fin de première partie et garder cet avantage augmenter l'avantage en tout cas sur Montpellier.
Ouais, parce que finalement c'est une bonne opération au classement, hein. C'est pas si mal, hein. T'es à 2 points de Lille, t'as un match en moins.
D'un point de vue comptable, c'est très bien pour l'Olympique Lyonnais. Après, dans le contenu, on s'attend toujours à un petit peu mieux. Je pense que quand tu regardes la composition de l'effectif, tu as beaucoup mieux à faire. Je suis toujours pas convaincu par l'organisation que Bruno Genesio a mis en place. Je pense qu'il y a toujours quelques lacunes. Ouais, je pense qu'il y a toujours quelques lacunes au milieu de terrain, notamment à la récupération. Ouais. Je pense que au niveau les quatre milieux sont très mal, n'arrivent pas encore à vraiment être très très raccord quand il faut monter au pressing, sur quand il faut pas monter au pressing. Quand tu vois le but d'Aguilar, à la base, il y a une perte de balles qui est assez étonnante au milieu de terrain. Mais Lyon, écoute, ce qui est intéressant avec Lyon, c'est qu'il y a je pense qu'ils ont quand même une belle marge de progression par rapport à ce qu'ils ont fait en première partie de saison. Et ils sont quand même, dans les temps d'être le champion de l'autre championnat sans le PSG.
Hier, on en a un petit peu parlé, on a fait un dossier mercato également sur pas mal de clubs de Ligue 1, dont l'OL. Genesio l'a expliqué en conf de presse cette semaine qu'en gros, il n'était pas vraiment demandeur de renfort cet hiver. tu penses toi qu'il devrait se renforcer? Il y a le dossier du défenseur central qui revient très souvent d'ailleurs.
Moi, bien sûr, il faut se renforcer, ils vont se renforcer.
Marcel, c'est pas mal, mais Marcel, je l'adore latéral.
Voilà. Dans le 3-4-3, il faut quand même des joueurs qui sont faits pour ce 3-4-3. Et Marcel, je pense pas qu'il soit fait pour un défenseur central gauche.
Ouais.
On l'a vu à Guingamp, c'était plutôt quelqu'un qui prenait son couloir, qui avait une bonne qualité de centre, et ça, il le retrouve pas vraiment en jouant axe gauche, il peut pas le retrouver, ce système-là.
Moi, vous m'enlèverez pas de la tête Dombélé, mais je t'ai dit, ta femme, elle a dit que j'étais James Zinedine.
James quoi?
James Zinedine. Elle m'a dit ta femme, mais je sais pas, j'ai pas compris ce que ça veut dire, mais bon. Non, vous m'enlèverez pas de la tête qu'il y a beaucoup de qualités dans le milieu de terrain lyonnais, que ce soit Dombélé, Aouar, même Diop, mais il en manque un vrai taulier. Le genre de mec qui est capable de mettre le pied, qui est capable d'être un petit peu plus d'expérience. Alors ça passe en Ligue 1 parce que le niveau de la Ligue 1 sur cette première partie de saison est vraiment très faible, mais avec les échéances européennes qui attendent Lyon, je pense qu'un gars comme Touzard, c'est un peu léger, et j'espère que voilà, cet hiver, il y aura quelque chose qui sera fait à ce niveau-là.
Accueillons Anthony, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16 et qui est donc en direct avec nous dans l'after. Salut Anthony.
Salut, bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut Anthony.
Bonsoir Anthony.
Bon, quelle lecture tu fais toi finalement de cette fin d'année de l'OL, Anthony?
Juste avant de parler du match, enfin juste Nico, je sais pas si tu te rappelles, j'étais passé dans l'after après le match contre Lille.
Si je m'en souviens. Si.
Et où il y avait, je me rappelle, votre consultant lillois qui disait que Lyon allait écraser le championnat, que ça y est, Lyon était lancé. Ouais. Et je vous avais dit, si tu te rappelles bien, exactement ce qui est en train de se passer. C'est qu'on a une équipe qui est tout le temps déséquilibrée. Ça a été encore le cas ce soir parce que Touzard, en fait, on dit qu'on joue avec deux joueurs devant la défense, mais c'est pas vrai. Parce que ce soir, si vous regardez le match, il y a Touzard qui est devant la défense et Aouar, il joue très très haut.
Exactement. Et Anthony, tu es d'accord que Touzard, on l'aime bien, hein, mais si tu pouvais avoir le niveau au-dessus dans le même profil, ton équipe, elle changerait totalement de visage.
Ah, mais complètement. Moi, Touzard, il fait partie des joueurs que je critique moins que les autres parce que au moins, dans l'attitude, il est quasiment.
Il est toujours là.
Est-ce qu'il est surcoté, Touzard?
Non.
Non, surcoté. Non, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais il n'ira pas plus haut. C'est tout ça. Je pense que lui-même, il le sait. Ça deviendra jamais un crack.
Est-ce que c'est le genre de joueur qui a les qualités pour être le joueur devant la défense dans un club comme l'Olympique Lyonnais?
Mais il a perdu sa place. Si Ndombele n'est pas aujourd'hui blessé, c'est Ndombele qui joue.
C'est un joueur de complément.
Sauf que Ndombele n'a pas le même profil que Touzard. Que quand tu mets Ndombele à Aouar, ça peut passer en Ligue 1. Mais quand tu vas avoir des équipes qui vont te rentrer dans l'art, il faut avoir un joueur qui soit un petit peu plus défensif, un petit peu plus costaud. Et le seul joueur qui est dans ce profil-là, vulgairement, vraiment sentinel, non, Diop, il a le même profil que Ndombele. Le seul joueur dans l'effectif de l'OL qui a ce profil de sentinelle, c'est Lucas Touzard. Et je pense que c'est léger.
Mais le gros problème, enfin, moi, quand on analyse l'OL, moi, j'ai envie d'aller plus loin que ça. J'ai envie de dire, le problème, c'est qu'on n'a pas de direction sportive. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on parle du milieu de terrain...
Dur.
Non, mais il n'y a pas de
mais vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Anthony, vas-y.
Ouais. Si tu regardes au milieu de terrain, si vous regardez, on n'a que des joueurs de ballon, quasiment. Diop, c'est un bon joueur de ballon.
C'est un très bon joueur de ballon.
C'est tous des très bons joueurs, mais on n'a pas de gars pour être devant la défense.
On est d'accord.
Pour, comme tu disais tout à l'heure, mettre le pinceau. Mais le pire, c'est quand on regarde les profils des joueurs qu'on suit et qu'on continue de suivre, on continue de se tromper parce qu'on veut continuer à chercher des joueurs offensifs, parce qu'on veut les revendre cher. L'idée de l'OL, c'est que ça. Parce que là, on parle de Herrera, on parle de plusieurs joueurs comme ça, et on se trompe parce que c'est pas ces joueurs-là dont on a besoin. On a besoin d'un défenseur central qui soit très costaud, ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle, parce que
Marcelo, tu sais, attends, Anthony, je te coupe, mais tu sais, le profil idéal qu'il faudrait pour cet hiver pour Lyon, c'est un joueur qui soit capable de jouer devant la défense et qui soit capable de jouer dans une défense à 3.
Mais tiens, mais Fred, toi, tu disais, on parlait de mercato tout à l'heure. Si toi, t'étais dirigeant de l'OL, là, en priorité, tu recruterais quoi?
Non, un axe gauche. Pour moi, je recruterais un axe gauche qui peut-être aussi, oui, peut jouer
en 6, ça serait le top, ça serait la cerise sur le gâteau.
Ah ouais, mais moi, ça sera un axe gauche. Après, tu sais, il y aura un match de gala contre Barcelone en Ligue des Champions. Mais la Ligue, normalement, en Ligue 1, l'équipe qui devrait finir derrière le PSG, normalement, c'est de l'Olympique Lyonnais.
Bien sûr.
Anthony.
On finira deuxième, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va finir deuxième ric-rac, parce que c'est comme ça que ça va se passer, alors qu'on devrait finir deuxième, loin du PSG, parce que le PSG est en train de faire une saison exceptionnelle, mais on devrait être tranquille, en fait. Et quand vous regardez en plus la première mi-temps du match de soir, on est encore retombé toujours
après,
dans la même travers.
Anthony, sur ce match-là, c'est le dernier match avant la trêve, c'est toujours un petit peu particulier. Après, si tu fais l'analyse sur l'ensemble du début de la saison, c'est vrai que pour moi, enfin, je veux pas insister, mais tu manques quand même vraiment d'équilibre, et je pense qu'il te faut le joueur qui soit capable d'amener cet équilibre-là.
Mais je pense que sur la deuxième période, et souvent Lyon le fait, il y a beaucoup, énormément de victoires. Alors, attendons un petit peu sur ce qui va se passer sur la seconde partie de saison, parce que généralement, ils finissent quand même très très fort.
Aussi, c'est vrai, oui, bien sûr.
Oui, comme l'année dernière, c'est vrai que c'est un point fort de l'équipe, mais je trouve que c'est dommage de se dire, parce qu'en fait, je trouve qu'on a tellement de marge, et les joueurs le savent,
bien sûr,
que même si on a 5, 6, 6 points de retard, là, c'est pas le cas, parce que si on gagne, on passe devant Lille, et si Montpellier gagne, on a un point derrière Montpellier, donc c'est hyper serré. Mais les joueurs savent que de toute façon, quand ils vont mettre le coup d'accélérateur, comme l'année dernière, ils vont enchaîner 7, 8, 10 matchs sans défaite, et ça passera.
Exactement.
Mais moi je pense qu'un club comme Lyon devrait avoir plus d'ambition que de dire, de toute façon le PSG est champion, donc on fait notre tambouille en Ligue 1
Il devrait être capable de concurrencer le PSG, parce que contrairement à ce que t'as dit Anthony, moi je pense que la direction sportive de l'OL est quand même assez performante quand tu vois les joueurs que Florian Maurice va chercher, et quand tu vois les moyens, quand tu vois le stade, je pense que Lyon doit avoir un petit peu plus
c'est impossible.
Non, mais
le PSG c'est impossible.
Fred, bien sûr, structurellement c'est impossible, mais à la manière d'un Monaco aller les emmerder une saison, tu vois, que réduire un petit peu l'écart, leur faire un petit peu plus peur, je pense qu'ils en sont capables.
Ouais. Anthony, merci d'avoir été avec nous. Bonne fête, Anthony.
Bonne fête.
Ciao,
Anthony.
À vous aussi, merci.
Merci, à bientôt, Anthony. Tiens, messieurs, on va parler du LOSC également, puisque Lille aussi joue une place sur le
Rennes
podium.
Après, hein.
Oui, on va faire Rennes, t'inquiète pas. Alors, Lille qui a mené 1-0 face à Toulouse. Ce soir, Raphaël Léon qui avait marqué le premier en première période, et puis en deuxième période.
C'est un portugais qu'on fait, lui.
Il y a eu deux pénaltys transformés par Gradel. Alors, dont un d'ailleurs, qui a pas mal fait jaser les.
Le deuxième.
Alors, ça a surtout rendu très énervé les joueurs du LOSC. 2-1, toujours est-il victoire du LOSC. Lille qui avait plus perdu à domicile depuis un moment d'ailleurs, qui restait sur 4 matchs sans défaite aussi. Bon, et Lille qui perd, donc qui reste deuxième, mais qui a donc un match en plus par rapport à l'OL. Alors on sait, on en a parlé également hier, mais il va y avoir le mercato. Lille va devoir passer devant la DNCG et ils vont devoir assurer quelques millions pour que ça passe justement devant la DNCG. L'hiver risque d'être compliqué quand même pour le LOSC.
Compliqué, mais ça se voit qu'il s'essouffle un petit peu depuis le début de saison. Connaissant le coach, qui demande énormément d'efforts par rapport à ce qu'il de. Non, je le connais. Enfin, je le connais personnellement, mais je l'ai pas eu en tant que coach.
Oui, c'est vrai, okay.
Mais en tout cas, je sais que ça demande énormément d'efforts de ce qu'il demande sur le terrain, et on s'aperçoit que ils sont fatigués. Alors la trêve, elle arrive à point nommé, et en espérant qu'ils vont repartir sur de bons pieds, parce que là, franchement, on les sent émoussés.
Il y avait pas mal d'absents aussi du côté du LOSC.
Bon, les absences ou pas, mais
franchement,
c'est dur.
Si en début de saison on vous avait dit que le LOSC serait deuxième, alors peu importe gilet jaune, pas gilet jaune, mais que le LOSC serait deuxième à la trêve, est-ce qu'on l'aurait cru?
Bien sûr. Que non.
Non, c'est clair. Mais après, ils risquent.
C'est remarquable ce qu'ils font.
Tant mieux, mais ils vont être victimes de leur succès. Mais ils vont être obligés de vendre des joueurs.
C'était sûr. Déjà, Thiago Mendes, je pense qu'on peut lui dire au revoir. Je pense que c'était son dernier match sous le très beau maillot du LOSC. Il faut le souligner, très très beau maillot sans sponsor. Mais moi, je tiens à saluer avant tout le travail que Christophe Galtier a fait avec cette équipe. Il est parti avec une situation qui était extrêmement difficile, avec un été qui a été incertain jusqu'au bout. On se le rappelle avec les joueurs qui ont été inscrits au dernier moment, que leur licence a été acceptée au dernier moment, et que le LOSC soit second, c'est vraiment remarquable. Donc chapeau à Christophe Galtier.
Tiens, accueillons Steve, supporter du LOSC, justement, qui nous a appelé au 32-16. Salut Steve.
Allô.
Ouais Steve, t'es là Steve.
Et là, avec sa petite fille, Steve.
Steve.
Vous entendez?
Ouais, là, on t'entend, ouais. Tu nous entends ou pas?
Excusez-moi, les gars.
Parce que je
revenais du stade, là, j'ai speedé un petit peu pour me garer.
Ok.
Pour éviter d'avoir la radio.
Merci d'être avec nous, Steve. Alors, il était comment ce match, Steve?
Écoute, la première mi-temps, encore une fois, je trouve que Galtier, avec la position qu'on a actuellement au classement, je le trouve un petit peu fébrile. De toute façon, là, ce soir, qu'on gagne ou qu'on perdait, c'est pas grave, c'était le dernier match. On aurait peut-être pu emballer le match d'entrée de jeu, quoi. Donc la première mi-temps, c'était un petit peu bizarre comme première mi-temps, on va dire. Et la deuxième mi-temps, par contre, ça a été beaucoup mieux. Après, ils ont fait ce qu'ils ont pu et on n'a pas su revenir dans le match, quoi.
Est-ce que t'es inquiet, toi, par rapport au mercato, justement, là, cet hiver, Steve?
Non, avec ce qu'on a ce qu'on a vécu l'année dernière, il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus rien qui m'inquiète là, quoi qu'il arrive.
Il a rien tout eu l'année dernière.
Et ouais, l'année dernière, on revenait, on était énervés. Après, j'aurais un petit message quand même à passer. C'est pour l'arbitre passe français. Alors, pour ce soir, le premier penalty, il est logique. Il est tout à fait logique. Il y a faute. Par contre, le deuxième, il est litigieux, puisque bon, j'ai le frérot qui est à la maison, donc qui m'envoie les infos en même temps. C'est lui qui prend la décision puisqu'il va voir la VAR, il regarde la vidéo, donc à la fin c'est lui qui prend la décision. Donc finalement, il nous met un deuxième penalty dans la tête, donc ce qui fait que ça tue tout le match. Et le problème de la VAR, c'est que c'est un super matos, mais le problème c'est qu'on s'en sert une fois sur 10. Parce que nous cette année on a été lésés sur pas mal de choses. La VAR, l'arbitre l'a jamais demandé. Et voilà, ça m'agace parce qu'il y a eu le match de Nîmes la semaine dernière aussi où on se prend 10 minutes dans la tête, des coups francs, on revient, on laisse un avantage, on revient à la faute. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'embêtent un petit peu. Donc, messieurs les arbitres, s'il vous plaît, Gérard Lopez est quelqu'un de très honnête. Il a un beau projet. Messieurs de la DNCG, c'est pareil, vous avez essayé de nous enterrer l'année dernière. On est encore là, donc cette année, laissez-nous tranquille. On est deuxième, arbitrez-nous, par exemple, comme le Paris Saint-Germain. Ce serait sympa. Voilà.
Ouais bon. Bon, tu sais que sur une année,
non,
souvent.
Ah non, tu me dis.
Mais non, mais Steve, c'est pas ça. Mais Steve, laisse-moi parler. Steve, ce que je veux simplement dire, c'est que sur une année, très souvent, les décisions arbitrales, certaines parfois sont litigieuses ou quoi, ça s'équilibre. C'est ça que je veux te dire. Voilà.
Ah non, pas pour nous. Hein. Le petit club de Lille, depuis l'âge de 5 ans, j'y vais à Lille. Avant, il n'y avait pas la VAR, c'était encore pire. Et non, moi, comme la semaine dernière, José Fonte, on ne sait toujours pas ce qu'il a dit à l'arbitre de touche. Parce
moi,
que...
je sais, moi.
Alors,
en fait, il a utilisé, mais il s'en est excusé, il l'a expliqué d'ailleurs dans une interview. Je le sais d'ailleurs, vous le savez tous. Ouais, il a dit un truc du genre, mais il a surtout répété une chose qu'il entendait à l'entraînement. Voilà. Alors après, c'est marrant parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. Et là, je te rejoins un petit peu aussi des fois. Mais c'est pas valable qu'en Ligue 1, c'est valable dans plein de championnats. T'as parfois des joueurs qui évoluent dans des gros clubs qui tiennent des propos qui sont parfois très familiers et agressifs avec les arbitres, qui sont pas nécessairement sanctionnés, et d'autres qui le sont. Alors, je dis pas que c'est le poids du maillot ou quoi, mais c'est vrai que je peux comprendre que parfois on puisse avoir ce sentiment d'injustice. Je parle pas du LOSC, je parle pas de ce qu'il y a particulier, mais globalement. C'est vrai que parfois tu peux avoir ce sentiment, quoi.
Bah, rien que tu regardes des matchs de Paris, combien de fois Verratti met la main sur le bras de l'arbitre pour éviter qu'il sorte le carton, il touche l'arbitre, c'est un carton. Il parle avec l'arbitre, c'est un carton. Mais seulement, le problème, c'est que nous, on nous arbitre pas de la même façon. Les gars, la semaine dernière, à Nîmes, j'avais vraiment l'impression que l'arbitre, il voulait vraiment, je vais pas dire le mot, mais rajouter 10 minutes.
Mais Fred, ça existe, ça vraiment? Toi, tu l'as ressenti dans ta carrière, ça ou pas? Le fait, par exemple, je sais pas, quand tu jouais à l'OL ou dans un gros club, tu sentais que t'étais arbitré différemment pour de la chose, clairement?
Non. Quand on est joueur.
T'étais à l'OL, forcément, t'étais arbitré différemment. Arrête un peu, on le sait tous.
Bien sûr, dès que je tombais dans la surface, il y avait pénalty.
Et s'il n'y avait pas pénalty, Jean-Michel, il allait à la mi-temps voir dans le vestiaire de l'arbitre, et puis t'inquiète pas que t'avais le pénalty en seconde.
Non, mais pas forcément toi, mais
mais je veux dire, on le voit et on le sent et on le sait que les arbitres, et de toute façon, ça a été dit aussi, que les arbitres différemment par rapport aux joueurs, par rapport au club,
et bien sûr,
et par rapport à la situation.
Ce qui peut être
de la soumission
inconsciente.
Bien sûr que c'est comme ça.
C'est une thèse qui existe en sociologie, c'est la soumission inconsciente, et c'est normal. C'est le statut qui pèse. On en a parlé plein de fois avec le PSG, pourquoi le PSG n'est pas arbitré comme les autres grands clubs en Ligue des Champions, c'est parce qu'ils n'ont pas l'histoire, le poids de l'histoire, le poids de la renommée, et c'est comme ça dans tous les championnats, dans chaque compétition.
Steve, merci d'avoir été avec nous en tout cas.
Merci à vous les gars.
Rentre bien, passe de bonnes fêtes.
Salut Steve.
Ciao, ciao.
Bonne soirée.
Merci,
bonne
salut, soirée. À bientôt Steve. Bonne nuit à toi. Dans quelques instants, tiens, tu voulais parler du Stade Rennais.
Ah ouais.
Le carton de la soirée.
Ah oui, le Stade Rennais.
Quand même. Qui cartonne. Attends. 4-0 ce soir face à Nîmes.
Encore un beau match du Stade Rennais.
Ouais, puis alors encore un carton du Stade Rennais.
Ouais. Très bien.
Et la Ben Arfa. Breton. On vous attend au 32-16 avec Fred Piquion et avec Jonathan Vaccaro.
Et Nicolas Villas.
RMC Football Show. L'After Foot. Nicolas Villas.
Accompagné de Jonathan Marcardier et de Fred Piquion, les affiches de la 19e journée de Ligue 1 ce soir. Reims et Caen fait match nul 2-2. carton de Rennes face à Nîmes 4-0. On y revient dans quelques instants. On vous attend, supporters de Rennes et de Nîmes au 32-16. Le PSG a battu Nantes 1-0. Strasbourg a battu Nice 2-0. Guingamp a battu Monaco 2-0. On vous attend également, supporters de Guingamp et de Monaco au 32-16. On vient d'en parler il y a quelques instants. La défaite de Lille à domicile 2-1 face à Toulouse. Angers, Marseille, un partout. Pareil entre Montpellier et Lyon et Saint-Etienne qui a battu Dijon 3-0. Au classement, le PSG leader, toujours, ça vous le saviez, champion d'automne. Lille est juste derrière avec 2 points d'avance sur Lyon, mais avec un match en plus que Lyon. Derrière Lyon, on a Montpellier avec 30 points, égalité de points avec Saint-Etienne, et Marseille est 6e avec 27 points, sachant que tout le monde n'a pas joué le nombre de matchs avec les fameux matchs décalés. Évoquons le carton de la soirée, les gars. Oui. Rennes qui a battu Nîmes 4-0, André Bourigeau et Sébastien deux fois ont marqué les 4 buts du Stade Rennais. On doit score le buzz.
On laisse un peu le son là, c'est bien.
Ou... J'aime bien, moi j'aime beaucoup ce son.
On pense déjà à Jérôme Thomas, hein.
T'aimes pas la cornemuse, toi?
Bah bien sûr que si.
Ah bah c'est celtique,
c'est culturel. Ouais. Celtique.
Ah oui, celtique. Tu sais qu'on dit celtique.
On dit pas celt, on dit celt.
Mais quoi, en gaélique ou?
C'est. Oui, en gaélique.
Non, c'est du gaélique.
C'est du gaélique. Ouais. Du gaélique. Ouais. Écoute, franchement, encore un match de Rennes depuis que Julien Stéphan a pris l'équipe où on ne s'ennuie pas. Encore un match où on prend plaisir à voir le Stade Rennais jouer. Encore un match où on se rend compte que dans cet effectif, il y a beaucoup de qualité. Que ce soit derrière, que ce soit au milieu de terrain, avec Clément Grenier, avec Atem Ben Arfa, avec Sibatcheux, qui a eu un début de saison compliqué avec des blessures, mais qui l'a fait encore un très beau match. Et moi, je pense que Rennes, on avait dit cet été qu'ils avaient fait un mercato pour être ambitieux, pour être compétitif, avec une équipe et un effectif qui était complet. Quand on les voit jouer, quand on voit ce que l'entraîneur qui vient d'arriver met en place, eh ben on peut être qu'enthousiaste. Et je pense que Rennes va être la sensation de la deuxième partie de saison, tout simplement.
C'était un mini Piquionico ce match. Hein.
Pourquoi tu dis ça?
T'as débuté à Nîmes, toi?
Ah, bien sûr.
Ouais, j'ai buté à Nîmes, exactement. À Nîmes et après à Rennes. Et ça fait plaisir, effectivement, de revoir un petit peu cette équipe remonter au classement et avoir des joueurs comme Batem ou qu'on a... Beaucoup de personnes l'avaient enterré et finalement qui revient dans le devant de la scène parce qu'il a un entraîneur qui lui fait confiance tout simplement. Ouais.
Et c'est lui que tu veux mettre en lumière dans l'effectif rennais.
Il y a pas que lui parce que quand c'est tout un collectif en fait.
C'est Benjamin André et Clément Grenier qui gênent tout dans cette équipe.
Ouais, mais après le Bourigeau, il est important, enfin tu as
raison, mais je pense que sur le terrain on a tendance à un peu le sous-côté, mais les deux sont très très forts.
Non, ils sont très complémentaires et c'est tout à fait l'équilibre de l'équipe. Quand il y en a un qui va vers l'avant, bah l'autre il compense et inversement. Et ce sont vraiment deux joueurs qui sont indispensables à l'équipe de cette Rennes.
Je crois que Clément Grenier a encore fait 12 ou 13 kilomètres ce soir.
Et aujourd'hui,
si on regarde sa moyenne sur le début de la saison.
Et heureusement que les deux sont là parce que Atem, on sait très bien qu'il va pas défendre de toute
façon.
C'est
ça, exactement. Ouais.
Donc voilà, c'est vraiment eux l'équilibre de cette équipe de Rennes.
Tiens, accueillons Romain, supporter rennais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Romain.
Salut l'after.
Salut Romain.
Alors Romain, est-ce que t'es conquis là par les débuts de Stéphan? J'imagine que tu vas pas dire que non, mais qu'est-ce qui a changé finalement depuis l'arrivée du nouveau coach?
Franchement, depuis Stéphan, là, c'est juste l'envie quoi. Il a ramené de l'envie, les joueurs ils se battent le terrain et ça voilà, ça a tout changé.
Exactement.
Des joueurs comme Bourigeau qui était voilà très moyen, il faut le dire depuis le début de saison, là il retrouve son meilleur niveau, le niveau de fin de saison dernière. Pareil Ben Arfa, on le retrouve le niveau de Nice. Non, c'est
t'as
super.
T'as totalement raison. Tu sais pourquoi? T'as raison parce que, genre, pour en avoir parlé avec des joueurs de Rennes récemment, je disais, mais est-ce qu'il y a un truc qui a changé dans la manière de travailler, dans la philosophie de jeu? Ils m'ont dit, non, en fait, c'est juste que ça a fait un choc que la Mouchi soit débarquée et que les joueurs ont plus envie parce que ce match-là, je pense qu'on a vu plein de matchs en début de saison où Rennes jouait très bien, ils menaient 1-0, au final, ils finissaient soit par gagner, soit par perdre.
Il y a un risque à ça, c'est que c'est souvent éphémère, hein, l'histoire de l'envie, le fameux choc psychologique après l'arrivée d'un nouveau coach.
Nico, je suis d'accord avec toi, sauf que les deux entraîneurs, et la Mouchi et Stéphan il y avait quand même une certaine construction tactique, une certaine solidité tactique qui permettait à cette équipe d'avoir quelques certitudes. Je pense que le problème sous la Mouchi, c'était juste un problème d'adhésion, de personnalité,
oui,
mais qu'il y a quand même beaucoup
si
de talent dans cette équipe-là.
Limité quand même, ça restait limité.
Comment?
Ça restait très limité quand même chez la Mouchi. On l'a bien vu sur la fin, hein, on ne pouvait plus avec.
Les problèmes entre la Mouchi et sa direction ont parasité aussi, le reste de l'effectif. Aussi,
ouais. Il y a eu des problèmes entre.
On fait un super choix, c'est avoir pris un mec du club comme
c'est
ça.
Génial,
ça peut faire que du bien pour le club.
Ouais, ben les soucis entre la Mouchi et la direction, on va dire, est plutôt Monsieur Létang, puisque c'est lui.
Par rapport au recrutement, il voulait garder Kadri.
Exactement.
Après, du cul penché droit, faut dire la vérité, il voulait garder Kadri.
Voilà. Et puis le système de jeu qui était peut-être pas fait non plus à par rapport à l'effectif, parce que dans un 4-3-3,
t'as parlé de Ben Arfa, positionnement de Ben Arfa.
Et son positionnement, il n'était pas non plus adéquat à cette équipe de Rennes maintenant.
Mais est-ce que Ben Arfa étant suffisamment en forme pour jouer au moment où la Mouchi avait l'équipe? Il y a aussi ça qu'il faut se demander.
Ouais, mais est-ce qu'il est en forme? Et est-ce que effectivement, si Sabri et la Mouchi avaient cette équipe aujourd'hui en 4-2-3-1 avec un Ben Arfa électron libre, est-ce que ils auraient pas fait le même résultat? Ça, de toute façon, on le saura jamais. Mais effectivement, je pense que Stéphane, il a ramené un nouveau souffle, il a ramené une nouvelle envie à cette équipe, et il le montre sur le terrain de toute façon.
Il est très 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 bon, il l'a montré avec la réserve de toute façon.
Et pédagogue, il est très pédagogue aussi. Hein. Ouais. Donc tout ça fait que
Bon orateur, il s'est motivé la troupe.
Et en tout cas, avec ce résultat, Rennes du coup est 8e avec 26 points. Alors c'est vrai que c'est assez serré, parce qu'entre la 8e et la 4e place, il n'y a que 4 points. Alors encore une fois, avec ces histoires de matchs à rattraper ou pas pour certaines équipes, Rennes a joué 18 matchs pour l'instant en 19 journées. C'est vrai que le wagon de l'Europe, il est là, il est juste à côté.
Oui,
hein,
ils sont dedans.
Ouais, on est au chaud là, on est au chaud à la 13.
Et bah t'es au chaud à la 13. Franchement, moi je pense que Rennes finira dans le top 5.
Ah bah j'espère.
Parce que moi c'est ce que j'avais parié au début de saison.
Ouais.
Moi je croyais on l'a
mouché cette année. Il y a du monde quand même.
Avant dans le top 5.
Il y a quand même du monde. Il y a Montpellier qui est encore là. Il y a Lille qui est encore là.
Mais Montpellier ça avance tout doucement maintenant.
Ouais bah ça va. Ouais. Moi je pense que Saint-Étienne.
Saint-Étienne.
Bordeaux et Rennes seront dans le top 5.
Il y a Bordeaux.
Saint-Étienne qui gagne 3-0 face à Dijon.
Je prends des risques. Je pense que Saint-Étienne et Rennes seront dans le top 5. Avec Lyon et Paris.
Donc tu mets Paris, Lyon.
Non mais attends, c'est quoi ton top 5?
Paris, Lyon,
Lille. Dans le désordre.
Ouais.
Paris, Lyon, Saint-Etienne, Rennes et un autre. L'autre, j'ai aucune idée.
Lille, Montpellier, Bordeaux.
Marseille?
Je sais pas.
Marseille.
J'ai aucune idée sur le cinquième, mais je pense que vu la dynamique, vu la qualité de l'effectif, vu la courbe de progression de Saint-Etienne et de Rennes, je pense qu'ils ont de quoi largement être dans le top 5.
Bah, je sais pas. Moi, je pense surtout qu'on en sait rien, comme tu dis. Il suffit que t'as un mec pété une dynamique, comme tu dis, t'as des équipes en fin de saison, tu peux avoir une Coupe de France, une Coupe de la Ligue qui peut soit te booster, soit te plomber. Enfin, il y a tellement de trucs possibles.
Ah, ouais, c'est encore très long.
Ouais, on verra.
Très très long.
On est risqué un peu.
Mais t'as pris ça des risques, toi.
Moi, je parie que le PSG va être champion.
Dans le désordre.
Moi, je vous dis, allez.
Moi, je vous dis que Saint-Etienne et Lille.
Mais Saint-Etienne, ils sont dans le top 5, Lille aussi. C'est quoi tes risques?
Et bah que
dis-moi que Nice, ils vont y aller.
Bah le risque, ça veut dire que ni Lille ni Montpellier, enfin que il y a une des équipes entre Lille, Montpellier.
Mais attends, déjà tu dis, tu le donnes même pas ton top 5. Le 5e, tu le donnes pas.
J'essaye.
Allez,
Paris.
C'est du prono total.
Lyon,
rien dire ce qu'on dit là.
Paris, Lyon. Grosse cote, hein. Saint-Etienne.
Bon, grosse cote, non, ils sont 5e.
Saint-Etienne 3e.
Ouais, ok. Ouais,
Saint-Etienne qualifié pour le tour préliminaire de Ligue des Champions.
Ça peut le faire.
Et je pense que ça se jouera entre Rennes et en fonction du mercato, entre Rennes et Lille.
Tu valides?
Après, je te dis pas, si Marseille change d'entraîneur,
tu peux grappiller.
On peut envisager que Marseille arrive à se
faire. Je sais pas ce qui est bon. Ça va être chaud. Aujourd'hui, j'arrive pas à dire qui c'est qui va finir dans les 5.
Le problème, c'est qu'il faut bien le dire, c'est que le niveau de cette Ligue 1 est tellement faible qu'elle est illisible, à part le Paris Saint-Germain et Lyon.
Après, c'est pas qu'une, même quand c'est fort, c'est aussi illisible, hein.
Mais là, c'est serré.
Bah, ça peut être serré vers le haut, oui, mais quand il en soit, c'est tout aussi indécis.
Mais là, c'est serré par le bas.
Du 2 au 8, c'est chaud.
Voilà.
Exactement.
Romain, merci.
Merci à vous.
Merci Romain.
Passe de bonnes fêtes, Romain.
Juste un petit truc.
Oui.
Moi, c'est pas Romain, c'est Corentin, parce que Romain, il avait juste pas les couilles de passer à l'antenne.
Ah, bah, bravo.
Oh là là. Qu'est-ce qui fait peur de passer à l'antenne avec nous? On est là, on est bien.
Et pourquoi Romain, il voulait pas? Explique.
Parce que, bon, il est supporter de Rennes, mais c'est un Brestois, mais moi, je suis un vrai supporter de Rennes depuis.
Alors, attends, il est Brestois, mais supporter de Rennes. C'est curieux, cette affaire de...
Hein?
C'est curieux, cette affaire.
Ah non, il est Brestois, mais c'est supporter le stade.
Ah, ok.
C'est ça qu'il veut dire. Bah, écoute, bisous à Romain et bisous à toi, Corentin.
Merci,
bonne vacances,
les gars.
Merci, les gars.
Il a tort, parce que quand t'as Jean-Marc Furlan comme entraîneur, tu dois supporter le club ou...
Ah, ça.
Bien sûr.
C'est un beau club, en plus, le stade.
Et il y a surtout Jean-Marc Furlan.
Et puis, ils sont en passe de bien te remonter.
Ouais.
Monaco-Guingamp, c'était le match de la peur ce soir, le dernier qui était chez l'avant-dernier, et victoire de Guingamp 2-0. Marcus Thuram et Nolan Roux ont marqué les deux buts de ce match. Alors du coup, Guingamp revient à 2 points de Monaco. Monaco qui est donc avant-dernier et 19e, qui a 3 points de retard sur Dijon et sur Amiens. C'est vrai que là, pour Monaco, ça commence à devenir très compliqué. Il y a eu l'arrivée de Franck Passy durant la semaine. Alors c'est tout frais, effectivement, qui est venu seconder, épauler Thierry Henry dans le staff technique. C'est vrai que c'est un peu local, oui, c'est un peu ça, mais là, c'est quand même une défaite qui pique pour Monaco. Hein.
Écoute, alors, je sais que ça va pas être très populaire ce que je vais dire, mais bon, une fois de plus, je vais voilà. Tout le monde était super enthousiaste de dire ouais, Thierry Henry, c'est génial, il prend un club de Ligue 1, machin. Mais Thierry Henry, c'est comme Patrick Vieira, enfin c'est des entraîneurs que encore Vieira, il avait une expérience, mais c'est Thierry Henry n'a aucune expérience. Et je comprends pas pourquoi tout le monde s'est emballé en disant putain ouais, Thierry Henry prend Monaco. Et pour l'instant, je suis désolé, quand on voit ce qu'il fait avec cette équipe-là, alors oui, il a des circonstances atténuantes, il a beaucoup de blessés, il a une situation qui est compliquée, mais son équipe est pathétique. Lui est pathétique sur le bord du terrain, son attitude sur le bord du terrain est aussi pathétique. Et l'attitude de ces joueurs est pathétique. Et moi, je suis très inquiet pour Monaco, qui est une des places fortes du football français. Il y a qu'à voir les résultats de Monaco sur la scène européenne, sur les 5 dernières saisons. Mais de les voir comme ça, dans cet état-là, avec Thierry Henry sur le bord du terrain, qui est un petit peu, oui, enfin, qui parle beaucoup, qui fait des jolies phrases en conférence de presse, mais qui ne propose rien avec son équipe. Je me demande si le choix de l'avoir nommé à la tête de l'entraîneur du club a été si judicieux que ça.
Fred. Encore une de tes ex, hein, à Monaco.
Ouais, encore.
De toute façon, on pourrait faire un championnat avec tes équipes, toi.
T'as pris beaucoup de rime à la signature, à chaque fois, j'espère.
Non, mais sérieux.
Non,
le grave 2.0.
On est très, très dur. On est très, 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 très dur avec Thierry parce que c'est un champion du monde, parce qu'il a fait une grosse carrière.
On est dur avec lui, t'es sûr?
Et qu'on a envie.
Les gens sont au contraire très indulgents avec lui.
Et qu'on a envie qu'il soit, que Monaco revienne dans le devant de la scène, qu'il soit le meilleur possible. Mais, effectivement, aujourd'hui, cette équipe de Monaco.
Non, mais sérieux, Fred, tu penses vraiment qu'on est dur avec Thierry Henry?
Ouais, si, on est
dur. Les gens sont quand même très indulgents avec lui.
Je trouve pas qu'on soit indulgent parce que on le critique énormément.
Tu trouves qu'on le critique beaucoup.
Bah on dit qu'on critique l'équipe en tout cas.
Je te pose une question. Ouais. Si c'est l'entraîneur de Monaco, ça s'appelait pas Thierry Henry, est-ce que tu penses pas qu'on le critiquerait encore plus vu ce qu'il propose sur le terrain?
Je pense qu'il a un statut qui fait que on pourrait ne le critiquer encore un tout petit peu plus
c'est comme dans tout débat, comme tout club, comme tout ce que tu veux. Bah t'auras toujours des haters, t'auras toujours des lovers, voilà, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. T'auras toujours des critiques hein, quelle que soit l'équipe.
Bien sûr.
Il y a bien des mecs qui critiquaient Guardiola quand il gagnait tout avec le Barça.
Nico, en fait, ce que je voulais dire c'est que j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à croire qu'un très grand joueur qui parle très bien de football peut être un très bon entraîneur.
Mais c'est ça, pas forcément, c'est pas vrai ça.
On a eu des deux matchs différents,
on a
vraiment la preuve.
On en a souvent parlé. Non, il y a eu bien sûr, il y a eu et il y en aura toujours de cette façon de réfléchir. Maintenant,
c'est normal qu'il y ait une certaine exigence vis-à-vis de lui.
Ah ben bien sûr.
En plus,
tu viens à Monaco, tu viens pas dans un autre club, tu viens dans le club de tes débuts. Simplement, la chose qu'il a faite là de très très bien, c'est qu'il prenne Franck Passy en tant qu'adjoint.
Oui, ça
c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux. Depuis qu'il est arrivé.
Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on s'est emballé alors que le mec n'a pas fait un parcours, par exemple, comme Zidane, qui avait, roulé sa bosse avec les équipes de jeunes et la réserve du Real Madrid. Le mec, il arrive avec une expérience qui est proche du néant. Et, on est tous là. Alors oui, il était avec la Belgique, hein, il était adjoint, mais bon, ça veut rien dire. Et il est là, les gens s'attendaient à ce que Monaco, ça devienne du football champagne. Là, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que je suis très inquiet pour la SM. Alors, t'as quand même beaucoup de blessés. Il y a des joueurs qui vont revenir parce qu'il y a quand même de la qualité en réserve. Mais je sais pas, ça pue un peu là aussi.
On va terminer cet after avec Maxence, qui est supporter de Guingamp. Honneur au vainqueur quand même dans ce match, ce fameux match de la peur.
On
ça
termine,
faisait 11 matchs. Il reste 2 minutes.
Et Saint-Etienne.
Hein. Ça faisait 11 matchs que Guingamp n'avait pas gagné. Et Guingamp est bien renoue avec la victoire, avec Jocelyn Gourvennec. Salut Maxence.
Ouais, salut Nico, salut Fred, salut Jonathan.
Bonsoir. Salut Maxence.
Ouais, il y a encore pas longtemps, on se disait que c'était mort pour Guingamp. Et puis là, finalement, tu reviens à deux points de Monaco. Hein. Tu reviens à 5 points de la 18e,
ouais, c'est ce que je me disais. Franchement, je me disais, est-ce que c'est pas les 3 points de l'espoir, comme ça, de les mettre bien au chaud avant la 13? C'était le match, clairement. Enfin, ça fait déjà 3-4 matchs où je me dis que si on le perd, c'est la Ligue 2. Là, voilà, il y a un match contre un concurrent direct, même si sur le papier, au niveau de l'historique, on n'est pas vraiment rivaux, mais il fallait absolument le gagner pour essayer d'entrevoir la deuxième partie de saison avec un peu d'optimisme. c'est chose faite, voilà. Est-ce que ce sera juste une victoire un peu en trompe-l'œil ou est-ce que c'est une victoire qui annonce des choses? On voit quand même qu'il y a quand même un effet conséquent à Guingamp.
Hein. Et il y a du mieux, Maxence.
Bah, Tarou qui marque est quand même un symbole important aussi. Hein. C'est bien de le retrouver.
Tarou qui était pas là, qui était près des terrains, il revient.
T'as récupéré Mendy.
Qui apporte beaucoup d'espoir, hein. Marcus Thuram quand même qui confirme, et puis à la récupération on a des joueurs comme Blas, comme Dido qui quand même qui ont de la qualité. Quand je vois les équipes par rapport auxquelles on doit se battre comme Dijon et Amiens, franchement sur le papier je me dis que
t'as entièrement raison, ouais, t'en as plein. T'as Dijon, Amiens, Caen,
t'en as
des équipes que normalement tu devais être au-dessus d'elles.
C'est vrai que quand tu regardes l'effectif c'est un peu ouais, t'as quand même des cartes à jouer.
Il y a des cartes à jouer. Après voilà, on va essayer de démarrer 2019 pied au plancher et puis y croire. Hein. De toute façon, c'est la devise de la maison.
Les balles dans le calendrier hein, en 2019 hein, en championnat, c'est Saint-Etienne, Rennes et PSG. Hein.
Ouais.
Trois premiers matchs. PSG en Coupe de la Ligue début janvier aussi. Ouais. C'est ce qui nous a plombé au début de l'année. Hein. C'est un calendrier cauchemardesque dès le mois d'août.
Et je regardais les stats. Guingamp n'avait jamais gagné dans son histoire à Monaco.
Exactement. Ouais.
Ça n'était jamais arrivé.
C'est vrai.
Voilà.
Ça,
en 16 matchs.
C'est chose faite.
Merci.
Et puis
Maxence.
Avec la manière.
Salut Maxence.
Après,
merci. Bonne fête.
Bonne fête.
Merci à vous aussi les gars.
À bientôt.
Oui. On va se rappeler le temps. Mais 7e victoire en 9 matchs de l'AS Saint-Etienne avec Ole Salnes qui, mis à part les milieux de terrain du PSG, est un des 3 meilleurs milieux de terrain.
C'est pour ça que
de
l'équipe 3e.
Ouais. C'est vraiment un super joueur, il a encore fait un super match et je pense qu'on souligne pas assez la qualité de ce joueur-là, mais c'est un régal de le voir jouer à chaque fois.
Bravo pour la qualité de tes analyses, Jonathan.
Ça marche. Et UFC 232, John Jones, Gustafsson, le 30 décembre sur RMC Sport 4.
C'est le plaque d'immatriculation.
C'est la revanche d'un des plus beaux combats pour une ceinture de l'UFC qui a jamais eu.
De l'UFC. Tu seras pas là demain?
Non.
Et je te souhaite de bonnes fêtes.
Moi aussi, mon amour.
Plein de bonheur. Merci beaucoup,
Bonne fête à toi aussi.
Bonne fête à tous.
Bonne fête également à vous. Nous, on se retrouve demain. De toute façon,
un petit
dernier affaire de l'année.
RMC Football Show, l'After Foot.